Il y a quelques jours de cela, on a parlé du Tzemar Tzedek. Et on a parlé, souvenez-vous, assez longuement du lien qui existait entre le premier Rabbi de Chabad, l'Admour HaZaken, et le Tzemar Tzedek. Et on a expliqué qu'ils avaient... Il y avait une sorte de vision, quelque part, que le Tzemar Tzedek allait être amené à remplir le rôle qu'il a eu. Et souvenez-vous, en tant qu'enfant, déjà, il y a une histoire, une sorte de vision de ce que le Tzemar Tzedek allait devenir. Bon. Maintenant, il faut savoir une chose. L'Admour HaEmtsaï, Rabbi Dovber, le deuxième Rabbi de Lubavitch, est parti de ce monde le 9 du mois de Kislev. Le Tzemar Tzedek a reçu la Nessiout, veille de Shavuot, l'année d'après. D'accord ? Veille de Shavuot la même année. Quelques mois plus tard, quoi. 6 mois, 7 mois plus tard. Et le Hayom Yom d'aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé la deuxième année à Shavuot. Et le deuxième Shavuot de la Nessiout, le deuxième Shavuot du leadership, quand le Tzemar Tzedek était rabbi, pour la deuxième fois dans le moment où il était rabbi. Maintenant, vous vous souvenez, la dernière fois, on a raconté une histoire avec Rabbi Nechemia de Dubrovna, qui était l'auteur du Divrei Nechemia, qui était aussi la Chavruta, quelque part, la personne avec qui le Tzemar Tzedek étudiait. Et donc, comme vous pouvez vous imaginer, on l'a raconté la dernière fois en détail, que le Tzemar Tzedek a eu du mal à être accepté par certains anciens chassidim. Pourquoi ? Parce qu'imaginez-vous des chassidim qui ont connu l'Admour HaZaken, qui ont connu ensuite l'Admour HaEmtsaï, Rabbi Dovber, et qui arrivent maintenant avec une nouvelle génération. C'est toujours difficile pour eux. Ils ont connu les anciennes générations. Et même si le Tzemar Tzedek a été un rabbi exceptionnel, bon, c'est toujours plus difficile pour l'ancienne génération d'accepter. Cette année-là, Shavuot, ils ont décidé de venir. Ils n'ont pas seulement décidé de venir, ils ont décidé d'amener avec eux tous les autres chassidim. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont dit, regarde, pour nous, peut-être que c'est difficile, mais il faut qu'on le fasse pour la génération d'après. En fait, si vous voulez, dans notre génération, les gens connaissent, pas tout le monde connaît, mais beaucoup de gens connaissent Yud-Shvat. Yud-Shvat, c'est le jour où le rabbi a pris les rênes du mouvement Chabad, du mouvement Lubavitch. Il est devenu le rabbi des chassidim, a accepté officiellement cette fonction. Si vous voulez, le Yud-Shvat du Tzemar Tzedek, c'est Shavuot. D'accord ? Donc, quand on calque ça et qu'on a un peu toutes les informations sur Yud-Shvat, de ce qu'il y a eu avant, pour ne donner qu'un exemple et pour donner un peu de contexte à ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce Hayom Yom, il est important, en fait, les chassidim, à l'époque, les anciens chassidim sont partis voir le rabbi et lui ont dit, il faut que tu deviennes rabbi. Et le rabbi fuyait le rôle. Alors, un jour, il leur a répondu, souvent il leur répondait, pardon, mon beau-père m'a jamais dit de le faire. Mon beau-père m'a jamais dit de le faire. Bien qu'il y avait beaucoup d'allusions au sujet, on sait que le dernier discours que le rabbi précédent a dit, la première source, c'est un midrash, Batilé Gani, ouais, etc., que tout le monde connaît. Le premier discours que le rabbi a dit et le dernier que le rabbi précédent avait laissé avant de partir, le Shabbat, où il est parti de ce monde, il a laissé un texte à étudier. Ce texte, la première source de ce texte, si vous le regardez, c'est pas cité dans le Mahamar, mais si vous allez chercher dans le Midrash, c'est écrit Amar, je veux dire en hébreu, je vais traduire, Amar Rabbi Menachem Chotno. Vous avez compris ? C'est-à-dire, il a dit Rabbi, c'est qui le Rabbi ? Menachem, le prénom du Rabbi, Chotno, ça veut dire son beau-père, Chatano, son gendre, pardon. D'accord ? Donc, quand on a ces informations-là, on comprend que la prise de pouvoir, entre guillemets, et la transition d'un rabbi à un autre, ça a quelque chose de très particulier. Et généralement, ça ne se faisait pas tout de suite. Vous voyez, il a attendu le Tzemar Tzedek quelques mois avant d'accepter la fonction, avant d'accepter le rôle. On dit que le rabbi Rachab, il a attendu plus de 10 ans, parce qu'il était très triste sur le départ de son père. Et il a attendu des années avant de prendre la fonction officiellement, même s'il disait déjà des Mahamarim, des textes de Chassidut avant ça, mais il ne recevait pas en Yechidut. Son père est parti, je crois, en Tavresh même, et lui, il a pris la Nessiout en Tavresh Nun Gimesh. Si je ne me trompe pas, ça a pris 13-14 ans. Et donc, c'est juste pour vous donner un contexte général de quel jour on parle et pourquoi est-ce que cette Torah, elle est amenée, pourquoi cet enseignement est amené, parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc, on est aujourd'hui le 2 Sivan, 46e jour du Omer. c'est l'année où le Hayom Yom a été dit, c'était Shabbat Parashat Bamidbar. Alors, il y a trois informations aujourd'hui. Premièrement, Ana Bechoar de Kabbalah Shabbat Amrim Belachash. Ana Bechoar, il est généralement dit dans des moments où on est tout seul, où on n'est pas en train de prier en minyan. Par exemple, quand on fait les Ketoret avant la prière de Mincha, d'accord ? Eh bien, on est seul, d'accord ? Quand on le dit le matin, même avant Shacharit, avant Odu, on est aussi seul. Il y a un seul moment où Ana Bechoar est pile au milieu de la tefila. C'est quand ? Vendredi soir. Donc on pourrait se dire, tiens, d'habitude c'est quelque chose qu'on dit à voix basse, là on devrait peut-être le dire à voix haute. Là, Hayom Yom dit, non, c'est quelque chose qui doit être dit à voix basse. Je précise que dans certaines communautés, pour certains, on dit ce passage-là à voix haute. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de préciser qu'il faut le dire à voix basse. Deuxièmement, Ufros, Alenu de Kabbalah Shabbat Ba'amida. C'est un passage de la Tfila aussi qui doit être dit debout. Ok. Troisième information, et c'est ce sur quoi j'ai donné un peu le contexte. Bishnat Tafkouf Petet, Khal, c'est 1829. D'accord. En 1829, Shabbat Parashat Bamidbar. Donc la Parashat Bamidbar est tombée un Shabbat la veille de Shavuot. Vous savez, Shavuot tombe des fois dimanche et lundi. Du coup, on a Shabbat Bamidbar et dimanche et lundi, c'est Shavuot. Donc c'est le cas cette année-là, en 1829. Kodem Adlakat Nerot Shel Shabbat, avant l'allumage des bougies de Shabbat, Amar HaTzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek a dit, un Mahamar, un texte de Chassidut, un discours de Chassidut. C'est où et Rosh Avotam. D'accord ? Il y a un passage dans la Torah qui parle du fait de compter. Et la Chassidut, elle explique que le fait de compter, quand on compte quelque chose, on lui donne une importance. D'accord ? Imaginez, vous avez quelque chose en vrac. D'accord ? À partir du moment où vous le comptez, c'est plus quelque chose en vrac, c'est 52 baguettes. J'en sais rien, moi. Je donne un exemple. D'accord ? Il explique comme ça. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est où que Pirouche ? Rabbi Avraham ben Ezra. Donc, c'est comme le commentaire de Rabbi Avraham ben Ezra qui dit « Qui tissa et roche quand tu lèveras » Quand tu lèveras la tête. Biura inyan, l'explication du sujet, elle est. Shalidea avoda tehara tencham avegouf. Quand on travaille de faire rayonner la neshama davantage dans le corps, eh bien, naase alia berosh ve etzem aneshama kmoshe ilemala. En fait, il y a toujours cette notion-là. Que quand on fait un travail, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'aller plus haut. En réalité, c'est toute l'idée du Homer. Nous, on travaille d'aller jusqu'au 49e niveau et Hachem nous donne le cadeau, le 50e niveau. Vous avez remarqué, on arrête le Homer la veille de Shavuot. Ça veut dire que là, Shabbat, samedi soir, on va compter le Homer et après c'est fini. Quand va se finir... En fait, la Torah, elle dit tu compteras 50 jours. Mais concrètement, on compte 49. Parce qu'en fait, nous, on compte 49 et Hachem, il nous compte le 50e. Hachem, il nous donne la force. C'est une notion qui existe énormément dans la chassidoute, dans tous les domaines. Ça peut être appliqué dans le domaine de la parnassa, ça peut être appliqué dans le domaine du travail personnel, etc. Mais c'est toujours l'idée, toi tu fais un effort et Hachem il t'amène. Vous connaissez le fameux exemple que il y a un prof qui veut montrer à son élève quelque chose, une idée. Alors il prend un verre d'eau qui est rempli déjà et il verse de l'eau sur le verre d'eau qui est déjà rempli. Et alors, l'élève, il regarde, il dit, mais il fait exprès ou quoi ? Le prof, il dit, c'est quoi le problème ? Il dit, le verre, il est rempli, on ne peut pas rajouter. Il dit, c'est exactement la même chose avec toi. Ta tête, elle est déjà remplie. Comment tu veux que je t'apprenne quelque chose alors que ta tête, elle est déjà remplie ? Avec Hachem, c'est le contraire. C'est-à-dire, autant des fois, on va dire ça dans l'autre sens, mais là, je vais accentuer de l'autre côté. Avec Hachem, il faut que le verre soit rempli, ça veut dire, il ne faut pas rempli de bêtises. Si tu veux avoir un lien avec Hachem et qu'Hachem te donne, il faut que toi-même t'aies fait déjà l'effort personnel et que tu arrives avec quelque chose de rempli. T'es rempli, alors là, je peux te rajouter quelque chose. Mais si tu viens les mains vides et tu dis « Ah, vas-y, je veux tout avoir en cadeau », ça marche pas. « Veisbir kama psukim mama rezoar midrash » Donc, il a expliqué cette notion-là. Bien sûr, là, on prend vraiment une idée, mais il y a beaucoup à dire sur le sujet. « Shabbat batzara yamar rabbeinu adrush » dans « Shabbat après-midi ». Le Tzemar Tzedek a expliqué une explication sur le pasouk qui dit « Va rastir l'idolam, je serai fiancé à toi pour toujours » ou « Biuro shenipesu belikute Torah » et son explication qui se trouve dans l'écouter Torah. Alors, il y a une explication. Je n'ai pas étudié ce Mahamar en long et en large, mais il y a une notion comme ça, que c'est quoi le sens de Eroussin. Vous vous rappelez, on a expliqué à plusieurs reprises que Eroussin, ça veut dire la première étape du mariage, quand le mariage était fait en deux étapes où il y avait une sorte d'engagement, et ensuite, 12 mois plus tard, le vrai mariage, c'est-à-dire la vie de couple. Aujourd'hui, on fait les deux en même temps. Et en fait, à l'époque, le mariage se passait en deux parties. Quelque part, on pourrait se dire, c'est quoi le sens ? J'ai vu ça une fois, je suis pas sûr que c'était dans un texte de Chassidut, mais je ne sais pas où qu'il est amené. Une fois, j'ai vu cette notion pour dire comme ça. Quand à l'époque, ils se mariaient en deux étapes, la première étape du mariage, elle consistait à dire, on s'appartient l'un à l'autre sans avoir aucun intérêt. Et en réalité, ça vient défaire la fameuse question, vous connaissez, je n'ai pas signé pour ça. Je ne me suis pas marié pour ça. Je me suis marié avec quelqu'un qui était super, qui était content, etc. Et là, voilà, elle a des problèmes, elle n'a pas d'argent, elle a des problèmes de santé. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Et cette notion de varastir li leolam, c'est de dire, je vais être toujours fiancé à toi. Ça veut dire, j'ai un engagement avec toi qui ne dépend pas de ce que j'obtiens de toi, qui ne dépend pas de ce que je vais récupérer de toi. Et dans la relation avec Hachem, c'est pareil. Oui, la fameuse phrase de John Kennedy, il a dit une phrase très forte. Il a dit, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, c'était bien pour l'Amérique, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est servir Hachem. D'accord ? Et dans le sens de la relation qu'on a avec Hachem. Ne demande pas ce que Dieu peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour Dieu. Varastir li leolam, c'est une telle relation où il n'y a rien. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt derrière la relation. Ou bureau, je me souviens que c'est droit. Beyam alef de chagashvot. Pour continuer dans les mots, donc le premier jour de la fête de Shavuot, Amar Rabbeinu et Adrush, ou Sfartem lachem bureau, je me souviens que c'est droit. Donc il a dit de ce jour-là le discours chassidique sur les mots de la Torah qui nous disent de compter le Homer. La chassidut explique généralement, ou Sfartem lachem milachon, sapir. Sapir, ça veut dire, c'est comme le saphir, c'est une pierre qui est brillante. Ça veut dire que l'objectif du conte du Homer, c'est d'arriver, et là, il nous reste encore quelques jours avant d'arriver à la fête de Shavuot dans laquelle on va arriver brillant. Beyom hashni de chag haShavuot, beSeudat Yom Tov, le deuxième jour de Shavuot, pendant la fête. Vous avez remarqué une chose, je m'arrête au milieu, mais il y a énormément de chassidut qui sont dites dans ces quelques jours. Parce que Shavuot, il n'y a pas de mitzvot. Shavuot, il n'y a pas de souka, de seder de Pessah, de matzot. Il n'y a pas de complication, il n'y a pas le chauffard, etc. Donc, en fait, toute la fête, elle tournait autour des discours de Chassidut, qui pouvaient durer des heures. Amar Rabbeinu et Adrush va Chochma Me'ayin Timatzé. Le Tzemach Tzedek a dit un discours sur le pasouk qui dit et la Chochma, d'où est-ce qu'on va la trouver ? Et en fait, c'est aussi quelque chose qui a été imprimé dans l'écoute Torah.